Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à l'intérieur du huis clos budgétaire, on a pu rencontrer des représentants des trois partis d'opposition qui, évidemment, ont beaucoup de critiques à formuler à l'égard du cinquième budget Girard. Frédéric Beauchemin du Parti libéral parle d'une vision faite de lunettes roses. Haroun Boisy de Québec solidaire traite le gouvernement d'irresponsable et Joël Arsenault du Parti québécois estime que le titre du budget « Un Québec engagé » est trompeur car il favorise le désengagement. Mais j'ai tenté de forcer mes trois invités, très critiques, à me souligner quelques bonnes mesures que ce budget contient.
Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Alors, je suis en présence de Frédéric Beauchemin, porte-parole finance du Parti libéral du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est un budget, selon vous, qui est fait avec des lunettes roses.
Absolument. On regarde la prévision du gouvernement de la croissance du produit intérieur brut net de 0,6 %.
Oui.
Desjardins est à moins 0,2 %. Il y a à peine une semaine, on a vu la faillite de la banque Silicon Valley Bank aux États-Unis. On a vu toute la pression que ça a mis sur le système bancaire américain, européen, les répercussions que ça va avoir sur l'appétit de risque des banques pour pouvoir faire la promotion du crédit pour prêter de l'argent. Les conditions bancaires vont se resserrer. La question, selon moi, c'est pas de savoir s'il va en avoir une ou pas. La question, c'est de savoir quand. Donc, 0,6
%. Vous êtes pessimiste, alors?
Ben, je suis pas pessimiste.
Pour ce qui est de l'économie québécoise?
Je suis pas pessimiste sur l'économie québécoise. Je vois juste l'évidence au niveau des ramifications de ce qui se passe dans le système mondial actuellement. Puis on est connecté, veux pas, avec ce qui se passe un peu avec les États-Unis. Notre économie, elle est différente. On est plus une économie de PME, c'est sûr et certain. Mais les conditions bancaires vont se resserrer au Canada aussi, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui, du fait que c'est des PME, est-ce qu'on n'est pas plus résilient? C'est un peu ce que le ministre a dit tout à l'heure.
Il y a effectivement une diversification de notre risque économique, si on peut dire, parce qu'on a une plus grande source de revenus, si on peut dire, du point de vue de l'État ou de la taxation, parce qu'on a plusieurs petites entreprises. Mais reste qu'il faut quand même les aider. Reste qu'il faut aider la déduction des petites entreprises qui n'a pas été annoncée dans le budget. Reste aussi que les conditions bancaires pour ces petites entreprises-là vont être aussi difficiles. Elles ont été victimes, si on peut dire d'une certaine façon, de la même inflation que nous tous. Les loyers ont triplé pour plusieurs d'entre elles. Puis malheureusement, bien, elles n'ont pas eu de droit parce que c'est des petites entreprises aux mêmes déductions que les moyennes et grandes entreprises au Québec. Donc, il y a un paquet de trucs là, d'injustice, on peut dire, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais je veux dire d'incohérence dans ce budget-là. Il n'y a pas de focus sur les petites PME au Québec, c'est clair. Avec ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui focus que sur les grosses entreprises.
Le ministre Éric Girard nous dit il y a un ralentissement, ça tombe bien, on a des baisses d'impôts, ça va stimuler l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique?
Oui, je suis pas en désaccord avec le concept que des baisses d'impôts stimulent la croissance économique. Mais dans un contexte où est-ce que pour financer ces baisses d'impôts-là, on les paye pas avec un surplus budgétaire, on les finance avec de l'emprunt. La question, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de financer ces baisses d'impôts-là. Mais il y avait un choix qui est historiquement le choix que les gouvernements ont fait, c'est-à-dire de financer une baisse d'impôts, financer une dépense gouvernementale en faisant un emprunt obligataire ou un emprunt bancaire à historiquement un coût moyen de 3,1 %. Bien, le gouvernement a décidé d'aller prendre l'argent dans les contributions du Fonds des générations.
Mais ça a aggravé le déficit? Qui est déjà, certains les observateurs disent que c'est inquiétant, alors que...
Non, mais la réalité, c'est que peu importe comment qu'on le regarde, ces baisses d'impôts-là sont faites avec de l'endettement.
Mm-hmm.
Donc, c'est de l'endettement. La question maintenant, c'est de savoir...
Le Fonds des générations, c'est pas un vieux gagné, là? C'est pas un...
non, c'est parce que la dette...
J'ai vu qu'il y avait 19 milliards dans le Fonds des générations.
La dette était à 200 milliards.
Ouais.
Le Fonds des générations était à 20 milliards.
Ouais.
Ça fait 180 net de dette. OK, mais si tu prends le 20 milliards pour aller chercher ce que tu allais mettre dedans, ben tu fais de l'endettement là aussi. Mm-hmm. Donc, le net résultat de tout ça, c'est qu'il y a une augmentation de l'endettement québécois qui va être fait à un coût le moins optimal. On aurait pu le faire à 3,1%, on va le faire à 6,3%. Il n'y a aucune explication logique à ça. Là. Aucune.
Je viens d'apprendre que vous êtes d'accord avec des baisses d'impôts quand même pour une première tranche.
Pour le premier palier d'imposition, parce que 44 000 $ approximativement pour une famille de deux, avec deux enfants, à la fin de l'année, là, t'as plus grand-chose. Donc, ici, on parle de mesures ciblées pour aider les citoyens. C'est dans ce contexte-là que nous, au Parti libéral, on est pour, justement, une baisse d'impôts pour le premier palier d'imposition. Ça va aider les Québécois qui n'ont plus de besoin. Et en plus, si je peux me permettre, et en plus, ce qu'on voulait, c'est une augmentation du crédit de la solidarité. Il y a 36 % des Québécois qui travaillent qui ne payent pas d'impôts.
Oui, c'est ça.
Ils font pas assez d'argent. Donc, comment aider ces Québécois-là? Bien, l'augmentation du crédit à la solidarité était le véhicule. C'est risible, l'augmentation dans le budget.
Mais le ministre Girard dit qu'on a déjà aidé notamment les aînés avec un 2000 $. On a aidé les autres avec des versements, des chèques. Donc, ceux qui ne paient pas d'impôts donc, ont quand même eu de l'aide depuis les élections.
C'est pas une mesure structurelle. Là. Le chèque qui a été fait, il est déjà dépensé. Là. Mm-hmm. Donc, non, mais on parle des jeunes, on parle des plus jeunes qui commencent sur le marché du travail, qui, eux, ont pas reçu le chèque des aînés. Ces gens-là sont dans la misère. Donc, le crédit de la solidarité, ça a l'air été très, très, très québécois d'aider les gens qui sont nos frères et sœurs, qui n'ont pas les moyens en ce moment. Puis, on est là pour ça. Le rôle de l'État, c'est d'aider justement en situation de crise.
Compte tenu des nuages noirs à l'horizon que vous voyez, sur lesquels vous insistez, qui n'étaient peut-être même pas là il y a 10 jours, là, qu'est-ce que le Parti libéral aurait fait?
De plus de 10
heures. De différents.
Bien, nous, ce qu'on voulait, OK, on voulait, comme je mentionnais tantôt, le crédit à la solidarité. OK, dans des situations de crise, que ce soit une récession ou une inflation, on veut quand même essayer d'aider les gens qui vont souffrir le plus. Mm-hmm. Alors, les gens qui souffrent le plus, malheureusement, dans la société, c'est toujours les gens qui en ont moins. Pour aider les gens qui en ont moins, c'est l'augmentation du crédit à la solidarité qui était l'instrument le plus optimal pour en arriver à ces fins-là. Mmh. On parlait aussi d'éliminer la TVQ sur un panier plus large de biens essentiels. Tu sais, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu t'achètes une brosse à dents. Donc, enlever la TVQ sur la brosse à dents, c'est sûr, ça va aider plus celui qui... c'est plus difficile d'en acheter une. Donc, ce genre de mesures-là, des mesures beaucoup plus ciblées, c'est ce qu'on a proposé. On avait un panier de solutions... Malheureusement, ça n'a pas été écouté.
Comme d'habitude.
Moi, c'est ma première année dans cette job-là, puis je trouve ça intéressant.
Oui, comment vous trouvez ça?
Bien, je trouve ça intéressant de voir que, on peut faire une différence, on peut verbaliser nos différences, puis au moins, il y a l'aspect démocratique qui est permis en agissant comme ça. Mais je trouve ça quand même spécial que mon cheval de bataille, c'est d'essayer de faire en sorte que ce gouvernement-là ait une vision de finances durables, que ce gouvernement-là ait une vision de gouvernance durable à long terme, prendre soin des Québécois et Québécoises maintenant, sans hypothéquer l'avenir de nos jeunes. Mm-hmm. Puis je ne peux pas croire que ça devient mon cheval de bataille. J'aurais pris ça pour acquis. Fait que c'est toutes ces petites réalisations-là de ce que c'est la joute politique un peu, que là, ben, je me dis, OK, correct, on va relever nos manches puis on va vraiment définitivement partir au combat pour ça. Là.
Le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028, qu'en pensez-vous?
Encore une fois, les prévisions du ministre Girard sont un peu roses.
Ouais.
Ça part avec son estimé de ce que va être la croissance du produit intérieur brut. Et à partir de ça, tout le reste découle. Selon moi, c'est la première ligne n'est pas la bonne. Et donc, le déficit en 2026-2027... a des fortes chances d'être encore très présent.
Mais est-ce que c'est un bon objectif? Parce que dans le passé, on sait que le Parti libéral du Québec, les budgets de l'État 2015, 2016, 2017, c'était des budgets où on visait vraiment l'équilibre budgétaire, la rigueur ou l'austérité, là, je ne sais pas comment l'appeler.
Moi, je pense que ce qui est important, c'est de regarder les yeux focussés sur l'atteinte d'un ratio dette nette PIB qui va tranquillement, pas vite, arriver à des niveaux plus bas. Ça semble être le même objectif que M. Gérard mentionne, mais lui, il se donne, c'est-tu 15 ans? Je pense que c'est 15 ans.
Il se donne plus de temps,
oui. Il se donne 15 ans pour atteindre ça. Donc, encore une fois, on pèle par en avant ce qu'un bon père de famille devrait faire maintenant. Et donc, ça revient à ce que je disais tantôt, je ne peux pas croire que c'est mon cheval de bataille, hein, de faire de la gouvernance durable ou des finances durables de l'État, mais c'est ça qui est ça, puis on va relever nos manches, puis on va le faire.
Vous êtes élevé contre l'apparente baisse de budget du ministère de la Justice?
Oui. Bien, en fait, si on regarde précisément, j'ai dit 1,5 contre 1,4, ouais. C'est 1,515 contre 1,400 quelque chose. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je les résume vite. Là. Mais n'importe comment tu veux regarder ça, okay?
Ouais.
En bout de piste, là, ça passe de 1,5 à 1,4. Donc, il y a une réduction de l'enveloppe budgétaire pour le judiciaire. Puis comme j'expliquais, la société est basée sur trois piliers, le législatif, l'exécutif puis le judiciaire. Puis s'il y en a un qui souffre, tout va souffrir. Donc, c'est important de s'assurer, surtout quand on entend parler autant le Simon-Jeanin Barrette que notre critique André Morin sur la justice, que ça coule de partout,
ce
bateau-là. On se doit d'aider ces gens-là. C'est important d'aider ces gens-là. Mm-hmm. Le système judiciaire est important. On ne peut pas laisser partir des causes parce qu'on n'a juste comme pas été capable de les entendre. Puis, à un moment donné, on va être obligé de dire, bien, on peut pas, on va écouter peut-être, je sais pas moi, un pourcentage X seulement des causes. Les restes, bien, oh well, on fait quelque chose d'autre avec. Tu sais. Je sais pas quoi. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas.
Le titre du budget, c'est Un Québec engagé. C'est un peu énigmatique. Il y a eu une question là-dessus. Le ministre nous a donné une série de choses. Vous, comment vous l'interprétez, Un Québec engagé?
Bien, moi, je pense qu'un Québec engagé, c'est prendre soin des Québécois maintenant.
Ouais.
Je m'excuse de me répéter, là, mais c'est prendre soin des Québécois maintenant.
Donc, vous dites qu'il est engagé dans la mauvaise voie? Ou...
Et sans hypothéquer l'avenir des enfants, parce qu'il est engagé définitivement dans la mauvaise voie pour l'avenir. Le bateau, il s'en va pas au bon port. Donc, prendre soin des Québécois maintenant, ça veut dire justement les gens qui n'arrachent, les gens qui ont juste moins les moyens. Actuellement, là, quand je le disais tantôt, 35% de la population active du Québec fait pas assez d'argent pour payer d'impôts. C'est risible, l'augmentation du crédit à la solidarité qui a été donnée pour ces gens-là. Ça se peut pas faire ça. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Fait que c'est un choix. C'est des choix politiques. Là, ce qu'on a vu, là, okay, c'est le côté, si on peut dire, un petit peu de plus à droite là, de ce gouvernement-là. On aide notre électorat seulement. Là. On n'aide pas ceux qui n'ont pas voté pour nous un peu.
Oui. Si vous aviez... Quelques éléments quand même positifs dans ce budget-là. En avez-vous vu?
Oui, j'en ai deux.
OK.
OK. Premier, le bon élément, c'est que le ministre nous a écoutés. Le ministre a décidé de rendre l'âge minimum à l'admissibilité au régime des rentes du Québec à 60 ans. Donc, il l'a laissé comme c'était. Nous, on a été... au début de tout ce processus-là, on voulait écouter un petit peu ce qui se passait, on voulait comprendre, mais c'est pas vrai qu'à 60 ans, on arrive à 60 ans puis on est tous égaux. Là. Il y a du monde qui ont eu des métiers pénibles, là, OK? Puis ils sont à une situation où est-ce qu'ils peuvent plus travailler, ils n'ont plus de bras, ils n'ont plus les jambes. Donc, on est content que le ministre nous ait écouté là-dessus.
Et votre deuxième bon point ou bon élément de ce budget-là?
Le deuxième bon point, c'est que le ministre s'est pas acheté une paire de souliers à 10 000 $.
Ouais.
Il a décidé de donner des sous à une œuvre de charité dans sa circonscription. Et tant mieux, je trouve que c'est une belle initiative. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Mais vous, vous êtes d'accord avec l'abandon de cette tradition-là ou si vous voyez le ministre des Finances dans quelques années, vous...
Moi, je vais vous dire une affaire.
Ouais.
Si demain matin, c'était ma job,
okay, ouais,
ça serait des souliers de marche de montagne que je m'achèterais. Parce que ce qu'on a à monter comme colline pour refaire des finances soutenables et durables pour nos jeunes, c'est toute une montagne.
Ouais.
Là, ce qui vient d'être arrivé là, a augmenté, a mis des arbres puis des cailloux encore plus gros devant nous quand on veut monter la montagne. Fait que moi, ça serait pas des petits souliers classiques, là, ça serait vraiment des bottes de marche de montagne. Peut-être avec des crampons.
Merci beaucoup, Frédéric Beauchemin.
Bonne journée.
Porte-parole en matière de finances pour le Parti libéral du Québec.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
On est toujours au huis clos du budget du Québec et je suis en présence d'Haroun Boisy, porte-parole en finance de Québec solidaire. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Le titre de ce budget-là, c'est « Un Québec engagé ». Engagé dans quoi, selon vous?
Ben, c'est dur à dire parce que nous, on pensait plutôt à un budget irresponsable. Ça serait le mot qu'on choisirait. C'est un budget injuste.
Je pensais que vous alliez dire désengagé, comme l'État qui se désengage.
C'est sans ambition. Okay. Si on a à choisir, c'est sans ambition. Vous savez, il y a toute la génération qui a bâti le Québec moderne, qui avait des ambitions pour notre richesse collective, pour nos services publics, pour qu'on crée ensemble une richesse qui nous appartient. On ne voit pas quelle ambition on a. C'est un petit budget où il y a des baisses d'impôts qui sont au centre de la prise de décision, qui sont des baisses d'impôts spécialement injustes. On a nos services publics qui sont dans une situation absolument terrible. Et effectivement, il y a un désengagement, il n'y a pas d'ambition pour nos services publics. Et en fin de compte, il y a un aspect vraiment irresponsable sur la question de la crise climatique. Donc, injuste, sans ambition et irresponsable.
Est-ce qu'on aurait dû prendre l'argent des baisses d'impôts, quoi, 9 milliards sur 5 ans, si je ne m'abuse, et donner ça aux employés de l'État?
Ben, nous, on pense qu'il y a deux axes sur lesquels il faut investir. D'un côté, il y a les services publics. Donc, effectivement, les questions des écoles, pas juste les salaires, hein, mais aussi, évidemment, les infrastructures. Il faut des profs dans les écoles, mais aussi, il faut des toits qui ne coulent pas. Il faut des urgences ouvertes dans nos hôpitaux. Il faut des listes d'attente qui ne prennent pas 2 ans pour pouvoir parler à un juge actuellement. Je veux dire, la situation de nos services publics est dramatique. Et de l'autre côté, il faut investir dans l'avenir climatique du Québec. Ça veut dire de l'argent neuf pour le transport en commun. Ça veut dire de l'argent neuf pour isoler les centaines de milliers de bâtiments qui sont mal isolés aujourd'hui au Québec. Ça veut dire arrêter les lubies du troisième lien. Il y a une certaine responsabilité, donc il y a deux axes.
Mais il n'y a pas grand-chose sur le troisième lien dans ce budget-là, il me semble. C'est pas clairement établi, non?
C'est sûr que le troisième lien, c'est comme un projet continu, année après année, donc il ne disparaît
sur
jamais.
Sur 5 élections, peut-être?
Sur 5 élections, on est encore sur des bureaux de projet, donc effectivement, il n'y a pas encore les milliards que ce projet-là devrait engloutir. Nous, on pense que ce projet-là est tellement mauvais que malgré toute la bonne volonté de l'entêtement du gouvernement, il ne verra pas le jour. C'est pas possible en 2020. Avec des rapports du GIEC qu'on a pu voir hier, qu'un projet comme ça voit le jour. Mais pour l'instant, il n'est pas abandonné et on pense qu'il est largement temps de l'abandonner.
Quelle portion de ce que coûtent les baisses d'impôts, donc 9 milliards, devrait aller aux employés de l'État et de la fonction publique? Et
on n'est pas rentré dans les détails, non, évidemment, de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce qui est mis dans ce budget-là ne suffit pas à bonifier la situation. Vous savez, dans une situation de crise comme ça de main-d'œuvre avec des manques terribles d'enseignants, de psychologues. Il y a toutes sortes de postes qui sont à pourvoir en technologie. Il va falloir mettre la main à la poche et clairement, ce budget-là est irréaliste par rapport aux demandes, effectivement, du Front commun.
Le programme pour une économie verte, c'est de l'environnement, ça. Il y a 9 milliards, on ajoute des sous. Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour vous?
Ben, d'abord, l'extrême majorité de l'argent n'est pas de l'argent neuf, là. C'est de l'argent qui est déjà prévu, qui a été alloué à des projets. L'argent neuf, c'est 122 millions. Là. C'est 0,1% du budget annuel de l'État. C'est ça, l'argent neuf. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Encore une fois, un de nos plus gros problèmes actuellement, c'est l'isolation des bâtiments qui sont des passoires énergétiques. Il n'y a aucun argent neuf pour ça. Le deuxième plus gros problème qu'on a, c'est les investissements en transport en commun. Actuellement, il y a encore une fois, pour chaque dollar investi en infrastructure, il y en a 71 sous pour la voiture et 29 sous pour le transport en commun. C'est irresponsable. Et pour finir, il faut abandonner le troisième lien.
Oui. Si vous aviez identifié quelques bons éléments dans ce budget-là, est-ce qu'il y en aurait?
Oui, il y a par exemple le fait que l'âge pour pouvoir prendre la retraite...
La Régie des rentes du Québec, oui.
Exact. Est resté à 60 ans, qui est
une... Mais ça devient optionnel, oui.
Exact. Et puis à partir de 65 ans, effectivement, les cotisations au RRQ deviennent optionnelles. Nous, ceci étant dit, on trouve assez spécial qu'on fasse... On est tout à fait d'accord pour faire un cadeau aux personnes, aux aînés qui veulent continuer à travailler... Mais on trouve anormal que les employeurs, eux, n'aient plus à payer leur juste part sur le fonds du RRQ. On pense que c'est un cadeau gratuit, là, Une petite vite, si je peux me... Oui. qu'on a fait.
Est-ce qu'il y a autre chose de positif?
Il y aurait quelque chose qu'on aurait bien voulu saluer, qui est le pass numérique. Non, le pass culturel,
oui.
Qui a été proposé, mais quand on a vu les détails, c'est 2 millions de dollars
qui ne
représentent à peu près rien, évidemment.
Mais pour le français, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même beaucoup d'argent?
Oui, il y a de l'argent pour le français, ça on salue évidemment l'argent qui a été mis sur la table pour la francisation aussi, c'est effectivement des bonnes mesures.
C'est votre premier huis clos du budget?
Oui.
Comment vous avez trouvé ça?
Moi, je suis un gars de chiffres et de politique publique. J'ai trouvé ça passionnant.
Oui. Puis l'organisation, le fait qu'on soit...
C'est impressionnant, je dois dire. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sécurité. On sent que on est privilégié d'être ici et d'avoir accès à toutes, non seulement ces données, mais aussi à tous ces cerveaux qui sont en train d'analyser ce budget-là. Mmh. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir.
Ben merci beaucoup, Haroun Boisy.
Si je peux conclure, dans 4 ans, ça sera tout le monde qui aura à analyser notre budget à nous, ça sera encore plus amusant.
Ah oui, vous pensez, oui, c'est ça. Ben, votre priorité comme ministre des Finances, ça aurait été quoi?
La crise climatique, évidemment. Et puis aussi, vraiment, les gens qui en arrachent. Là, nous, on voulait doubler le crédit d'impôt pour solidarité.
Oui.
C'est vraiment important là, de faire exactement l'inverse que ce que la CAQ fait avec ses baisses d'impôts, c'est-à-dire aider le 3 millions du bas de l'échelle plutôt que d'éliminer le 30% du bas de l'échelle de toutes ces baisses d'impôts.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Haroun Boisy, je le répète, est porte-parole en matière de finances pour Québec solidaire.
Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission.
Je suis encore au huis clos du budget et maintenant en présence de Joël Arsenault, qui est porte-parole en matière santé pour le Parti québécois, un des 3 députés. Bonjour.
Oui, bonjour.
Le titre du budget, c'est « Un Québec engagé ». Engagé dans quoi, selon vous?
Bien, engagé dans une espèce de continuité à faire fi des problèmes réels des gens là, sur le plan social, ce qui est pas tellement engageant, en fait. Là. On dirait que le gouvernement veut continuer de gérer le Québec là, sur le plan macroéconomique sans prendre acte du fait qu'il y a des besoins sociaux en matière de logement, mm-hmm. d'habitation, les places en garderie, les services aux aînés, par exemple. Sur ce plan-là, nous, on pense que c'est plutôt un désengagement qu'un engagement.
Les baisses d'impôts, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on baisse un peu les impôts des contribuables québécois qui sont parmi les plus taxés en Amérique du Nord? Si on écoute, on serait quasiment les plus taxés du monde, l'OCDE, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on donne un peu d'air, même si c'est vraiment pas beaucoup, là, mais...
Ben moi, je pense que faut regarder si on en a pour notre argent avec l'impôt qu'on paye. Et si on regarde, par exemple, les États-Unis comme un modèle, je pense qu'on fait fausse route.
Mm-hmm.
On paye moins d'impôts, mais avoir aucun service universel ou gratuit en matière de santé. On regarde certains pays européens, le taux d'imposition est supérieur, mais les services également. Moi, je trouve qu'on est au bon endroit et surtout... alors que la situation économique est plutôt précaire.
Donc, le Parti québécois n'aurait vraiment pas fait de baisse d'impôts?
Non, nous, on aurait facilité la vie à certaines catégories de citoyens. Là. Je pense évidemment à ceux qui ont un crédit d'impôt de solidarité. On souhaitait le doubler. Le gouvernement mm-hmm. a choisi simplement l'indicateur là, spécifique au logement. Ça donne 40 $ de plus par année. Mm-hmm. C'est vraiment très, très marginal. De soulager... par exemple, les personnes les plus démunies, les personnes âgées, là,
mm-hmm.
on en est. Mais pour ce qui est des gens qui vont bénéficier de la baisse d'impôts, là, ce sont des gens qui ont les moyens actuellement de faire face à la musique, alors que par ailleurs, il y a des gens qui ont des besoins concrets en matière de logement, par exemple, ou de places en service de garde ou autre, qui n'auront pas ces services-là parce que le gouvernement n'y investit pas, parce qu'il a décidé de choisir les baisses d'impôts en se privant de revenus d'investissement.
Quelle aurait été la priorité du Parti québécois s'il avait été au pouvoir?
Ben, nous, on l'a déjà mentionné, c'est-à-dire que j'en parle depuis le début, la question du logement est criante. Ouais. Et si on n'a pas un toit, si on n'a pas des soins de santé, des soins à domicile pour les personnes âgées, si on n'a pas des services de garde universelle à travers le Québec, ben on a des difficultés sociales qui vont être vécues par un très grand nombre de familles. Puis ultimement, je dirais que c'est des mesures économiques aussi, surtout là, pour les places subventionnées en services de garde. Actuellement, c'est très criant. Beaucoup de gens doivent se priver d'un salaire en gardant l'un des deux conjoints à la maison. Ou sinon, ils payent les yeux de la tête pour essayer de faire garder leur enfant au privé, avec des voisins, et ainsi de suite. Et ça, ben, ça nuit évidemment là, au développement, en fait, à la situation économique des familles et du Québec en général.
Vous êtes député des Îles-de-la-Madeleine. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les îles là-dedans?
Il y a une petite mesure pour le port de l'île d'Entrée qui est complètement isolé du reste de l'archipel et qui a vu le service de traversier interrompu l'année passée parce qu'il y avait eu une grande tempête et une difficulté d'accès au port. C'est un port fédéral. Et puis on devait faire
un port fédéral, mais c'est le Québec qui va payer?
Ben, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi le Québec a décidé de ramasser la facture alors que c'est un port qui est géré par Pêche et Océan Canada. C'est un port de pêche, mais qui sert de port de ravitaillement, si on veut, 12 mois par année. Alors, visiblement, le gouvernement a décidé de piger dans sa poche pour nettoyer ou draguer une infrastructure portuaire fédérale. L'important pour moi, c'est que les citoyens aient un service de transport 12 mois par année. Là, on comprendra.
Mais donc, vous saluez cette petite mesure-là?
Oui, absolument, parce que en fait, on le demandait depuis ce temps-là, qu'on ne devait pas avoir des citoyens de deuxième zone, même s'ils habitent sur une île isolée de l'archipel. Donc, ils sont en situation de double insularité. Mm-hmm. Donc, il fallait que les gouvernements s'entendent pour pouvoir assumer ce travail-là. C'est le gouvernement du Québec qui relancera la facture.
Est-ce que c'est un budget aux lunettes roses? Il y en a qui ont dit ça dans les oppositions, parce que même le ministre nous a dit à un moment donné dans sa présentation que s'il avait fait le budget il y a 10 jours, ben, les prévisions auraient été plus positives.
Ouais, ben les choses évoluent rapidement là, sur le plan économique, mais ce serait quand même dommage que le gouvernement, qu'on vive un peu la même chose qu'à la veille de la pandémie. Souvenez-vous, quand on a proposé le budget, à ce moment-là,
il était caduque
avant même qu'on l'ait présenté.
Avez-vous cette impression-là avec ce budget-là?
Ben, j'ai comme l'impression, effectivement, que les propositions, même les plus conservatrice du gouvernement pourrait s'avérer caduque si effectivement on a pêché par excès d'optimisme par rapport justement là, au retour là, d'un taux d'intérêt beaucoup plus bas l'an prochain, puis la baisse du taux d'inflation. Visiblement, le gouvernement est plutôt optimiste. Évidemment, moi, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je suis pas certain que le gouvernement ait été suffisamment prudent là, pour répondre à votre question.
Si vous aviez un élément positif à souligner, est-ce que ce serait pas le français? Il y a quand même pas mal d'argent pour le français.
Oui, bien, on est heureux de voir que le gouvernement a saisi certaines de nos propositions au Parti québécois, notamment le passeport culture, là, pour donner un plus grand accès à la culture aux Québécois. L'investissement dans la production de Télé-Québec, des productions québécoises. On en avait fait l'un des axes de notre dernière campagne électorale.
Pour remplacer Pat Patrouille.
Exactement. Vous avez une bonne mémoire. Donc, on voit que ça, c'est un geste positif. On en convient. Même, il y a la question de ne pas obliger les gens qui veulent continuer de travailler au-delà de leur retraite, ne pas les obliger à payer un régime des rentes. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est pas assez ambitieux parce que si on pouvait mettre en place la mesure fiscale qu'on avait proposée, donc de ne pas exiger qu'ils payent des impôts là, sur les en bas de 50 000 $ ou même jusqu'à 80 000 $, que l'impôt soit minimal, ça, ce serait un véritable incitatif. On a peut-être enlevé un des incitatifs, mais on n'a pas mis de véritable incitatif pour les inciter à continuer et à résorber une partie de la pénurie de main-d'œuvre.
Dernière question, Paul Saint-Pierre Plamondon est critique en matière de finances. Pourquoi il n'est pas ici aujourd'hui?
Ben, en fait, il était ici au huis clos. On a travaillé ensemble sur la réaction à offrir, mais aujourd'hui, on avait une pénurie de main-d'œuvre au Parti québécois notre collègue Pascal Bérubé avait un enjeu de santé. Il a dû aller en cabinet pour un problème dentaire, ce qui fait que on aurait laissé sur la table une de nos rares questions à l'Assemblée nationale durant la période de questions. Donc, le chef a dû s'éclipser pour aller poser la question au premier ministre.
C'est noté.
Il laissait la responsabilité de réagir au budget.
Merci beaucoup, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé pour le Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi de budget. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.